Radio Okapi. Okapi service avec Marcel Ngombombala. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Quelles sont les opportunités d'investissement? En RDC, nous en parlons dans ce numéro avec notre invité Julio Mupemba, spécialiste en investissement et accompagnement du start-up. Il est dans ce studio avec nous, Julio Mupemba, bonjour.
Bonjour Marcel, merci beaucoup de m'accueillir.
Voilà, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et dans la deuxième partie de ce magazine, comment réduire l'importation de produits agricoles dans les grandes villes de la RDC, nous en parlons également avec Madame Brigitte Kanika Saoud, experte en développement et coordonnatrice provinciale de Picagel Tanganyika. Voilà le menu pour le magazine Okapi Service de ce jour. J.C. Siala est à la mise en nom de Tatima Poku Cordonne et réalise ce magazine présenté par Marcel Ngombombala sous la supervision de Jean-Marc Mataki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans cette pile, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Quelles sont les opportunités d'investissement en RDC? Je le disais, on en parle dans ce numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service avec notre invité Julio Mupemba, spécialiste en investissement et accompagnement du start-up. Vous le savez, la RDC regorge de potentialités immenses d'investissement avec ses vastes étendues de terres arables et une main-d'œuvre jeune. Mais il y a plusieurs chaînes de valeur qui peuvent être développées si l'on met des capitaux rien que dans les secteurs agricoles, selon les experts. Il suffit d'assainir le climat des affaires pour attirer les investisseurs dans tous les secteurs de la vie. Alors, quelles sont ces opportunités d'investissement en RDC? On en parle dans ce magazine. Je rappelle le numéro du contact si vous êtes intéressé. Composez les 081 893 63 94 ou encore les 099 706 63 94. Il y a également l'adresse au service @ à laquelle vous pouvez bien réagir. Et merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà réagi sur la page Facebook Okapi Service par rapport, bien entendu, à ces sujets sur les opportunités d'investissement à RDC. Encore une fois, Julio Mupemba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes spécialiste en investissement et accompagnement de start-up. Alors, les opportunités d'investissement en RDC, avant de parler des opportunités d'investissement, parlons un peu de l'investissement comme ça. Qu'est-ce qu'on peut comprendre comme investissement avant de voir tout ce qu'il y a comme opportunité dans ce vaste et immense pays que la RDC?
Bien sûr. L'investissement, c'est quelque chose de très large. Ça signifie pouvoir mettre de l'argent quelque part.
Oui.
Et donc, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a de l'investissement qui est fait par des structures spécialisées. Il y a de l'investissement qui est fait par des banques. Il y a de l'investissement qui est fait par des particuliers. Tout ça porte des noms différents. Et chaque investissement permet de répondre à des objectifs différents. Voilà ce qu'est l'investissement. Si on rentre un peu en détail, il y a des investissements dédiés aux startups, quel que soit leur domaine, technologique ou non. Il y a des investissements qui sont plus focalisés sur l'agriculture. Il y a des investissements dans l'infrastructure, donc des gros sujets. Il y a des investissements dans des projets portés par des femmes. C'est très large. Et l'un des points importants pour un entrepreneur, c'est de savoir à quel type d'investissement je peux faire appel dans ma région.
Et c'est d'ailleurs ça le plus important pour s'assurer qu'on va faire de bonnes affaires. Et vous avez parlé des start-up, c'est en anglais ça. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par start-up ?
Start-up, si on le met en français, ce serait des entreprises innovantes,
oui,
avec un potentiel fort de croissance. Dans ces entreprises innovantes, on entend souvent la partie technologie,
oui,
mais on peut innover sans être dans de la technologie pure. On utilise forcément potentiellement des outils techno qui nous permettent d'aller plus loin. Mais l'innovation ne signifie pas simplement avoir fait une application. Non, ça peut être un outil, par exemple, dans le secteur agricole qui nous permet d'avoir une meilleure connaissance de nos champs ou d'autres sujets. Mais voilà. Start-up égale entreprise innovante avec potentiel fort de croissance.
Ah, vous venez de l'évoquer déjà, le secteur agricole. On dit que c'est vraiment un secteur, il y a beaucoup d'opportunités. Si on peut commencer par ces secteurs-là avant de voir d'autres secteurs. Dans le secteur agricole, qu'est-ce qu'on peut avoir comme opportunité dans ces secteurs et faire des affaires qui peuvent bien marcher?
Pour faire des affaires qui peuvent bien marcher et pouvoir faire appel à une opportunité, il faut être capable de répondre aux attentes de l'investisseur, quel que soit le type d'investisseur. Un investisseur, son objectif, c'est de mettre de l'argent pour soutenir, pour accompagner quelque chose, et derrière, répondre à une question personnelle. Ça peut être répondre à... Il y a des investisseurs, par exemple, des bailleurs internationaux qui ne cherchent pas de retour sur investissement forcément, qui vont mettre de l'argent et derrière, ils vont voir que vous avez créé de l'emploi, ils sont satisfaits. Il y a des personnes qui veulent chercher aussi un retour en gagnant de l'argent. Et donc, lorsqu'on est dans le secteur agricole, on est toujours dans cette problématique-là. Quel type d'investisseur, qu'est-ce qu'il attend et comment est-ce que je peux lui parler? Et derrière, le type de fonds auquel peut faire appel un agriculteur, ça va être des éléments qui lui permettent d'améliorer son outil productif, c'est-à-dire de passer d'un stade où je suis un petit agriculteur, je fais des choses à la main, quelque chose comme ça, mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner parce que je veux produire. Je veux pas simplement récolter et envoyer quelque part, je veux par exemple produire. Et donc on va mettre en place un schéma, une réflexion qui permet derrière de le présenter à un investisseur, de voilà, aujourd'hui on est 5, c'est que ma famille, et on ramasse de façon artisanale, et demain on pense que tel produit, on peut le faire de façon un peu plus industrielle et mettre en avant le produire local, le développer local et autres.
Alors, avant d'explorer d'autres secteurs, si on reste encore dans les secteurs agricoles, il semble que on n'est pas investi dans ces secteurs agricoles. Vous confirmez ça ou bien c'est pas le cas? On estime que même les banques n'offrent pas toujours de crédit pour des personnes qui veulent investir dans les secteurs agricoles.
C'est vrai. Mais pas totalement. Le point dessus est, comme je disais, l'une des problématiques des personnes qui ont besoin d'argent, c'est qu'ils ne savent pas comment faire appel à cet argent, comment parler à la personne ou à la société qui est capable de leur fournir cet argent. Oui. Une banque ne financera pas un agriculteur au plein milieu du Congo qui n'a pas de données qui démontrent l'activité qu'il fait, qui démontrent combien il produit, à qui il vend, qui n'est pas formel. Ça, c'est sûr qu'on se heurte à un plafond, à un mur, et donc il y a il y a des réponses qu'on ne trouvera pas. Maintenant, si on est une entreprise agricole avec des documents, une entreprise formelle, et que l'on va chercher une banque pour demander un prêt de 20, 30 000, 50 000 dollars ou plus, eh bien là, on a déjà plus de chances de pouvoir avoir une oreille attentive et de potentiellement arriver à nos fins.
Voilà, là c'était pour les secteurs agricoles. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres secteurs ici à NRDC pour lesquels il y a beaucoup d'opportunités d'investissement?
L'un des points clés, la RDC, c'est entre 80 et 100 millions de personnes.
Oui.
Une ville comme Kinshasa, et il y a des hubs comme Kinshasa, comme Lubumbashi, comme Goma, qui regorge de jeunes, de jeunesse talentueuse, de jeunesse qui a soif de créer de la richesse, de créer de la valeur et de répondre à des problématiques. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, par exemple, dans le domaine des startups,
oui.
De ces entreprises innovantes
voilà,
à fort potentiel de croissance.
Oui.
Et l'une de leurs problématiques à eux, c'est qu'il n'y a pas assez, de personnes, de fonds qui sont capables de les accompagner, de leur faire confiance. Elles ont besoin d'autre chose que des fonds, mais si on se concentre sur la partie fonds, il y a un point en RDC, c'est que il y a de la richesse. On se promène dans ces différentes villes, à Kinshasa, Bukavu, peu importe où, et on sait qu'il y a des personnes qui ont de l'argent. Mais ces personnes-là, cet argent, il est plutôt amené à être à faire par exemple de l'immobilier ou à ils investissent dans d'autres choses, mais une très très faible part de cet argent sert à soutenir l'économie locale, à soutenir les entrepreneurs, et ça c'est un vrai point pour lequel moi je me bats afin que il y ait des conditions, il y ait une incitation pour que ces personnes qui ont un peu d'argent, $1,000, $2,000, 10 000, $50,000 qui peuvent mettre dans une ou plusieurs entreprises, eh bien, le fassent. Et ça va permettre d'accompagner ces créateurs d'entreprises, ces jeunes qui ont des idées, de l'ambition, et ça va créer de la valeur pour l'ensemble. Celui qui a donné son argent, si le projet réussit, il peut gagner beaucoup d'argent. Et celui qui s'est fait accompagner, il aura réussi à créer de l'emploi, à se créer lui-même son propre emploi, et potentiellement à répondre à une des problématiques de la vie quotidienne des Congolais.
Excusez-moi, ça c'est déjà intéressant lorsque vous parlez des sommes comme $1,000, parce que bien souvent on estime que les gens pensent que pour commencer un projet il faut avoir beaucoup d'argent. Alors concrètement, comment vous faites pour les accompagner avant qu'on passe la parole aux auditeurs, parce que vous êtes spécialiste pour ce qui est l'accompagnement des startups. Concrètement, vous faites comment? Est-ce que vous avez déjà un projet en cours ou bien un projet qui a déjà marché que vous avez accompagné?
Ici à Kinshasa, oui. Par exemple, si on parle d'un projet que vous connaissez sans doute ici à Radio Okapi, l'application Basics, donc qui est une application musicale de streaming. Donc, on peut suivre, écouter de la musique congolaise, puisque ici elle est locale. Eh bien, ça fait partie des boîtes ici sur le pays que j'aide un petit peu dans ces réflexions par rapport à comment est-ce que je peux passer à l'étape suivante, comment est-ce que je peux obtenir des fonds. Moi, ma spécialité, c'est de financer à travers les fonds dans lesquels je travaille, ou soit d'accompagner les entreprises pour qu'elles se fassent financer. Et donc c'est l'une des clés. Sans financement, il est difficile. Mais comme vous l'avez souligné, le financement, c'est pas forcément $200,000 ou $1,000,000. Ça, c'est problématique et je reçois des dossiers comme ça et c'est problématique. Le financement peut commencer à $2,000, à $5,000, à $10,000. On peut faire des choses, on peut travailler, produire quelque chose, vendre quelque chose et avancer.
Voilà, Julio Mupemba, spécialiste en investissement et accompagnement des startups, on revient à vous. Il y a déjà des auditeurs en ligne qui veulent bien intervenir. Je rappelle, si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, nous parlons des opportunités d'investissement en RDC avec notre invité. Je rappelle, c'est Julio Mupemba qui est spécialiste en investissement et en accompagnement des startups. Si vous êtes intéressé et vous voulez intervenir, n'hésitez pas à composer les 0811 à 90 63 94 ou les 099 et 716 63 94.
Okapi Danse. Okapi Danse, c'est la découverte de nouveaux talents, de nouveaux sons des Congolais d'ici et d'ailleurs. De mercredi à vendredi, à partir de 23h et le samedi à 21h.
Charles Kisimba nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Charles.
Oui, bonjour, c'est les journalistes et bonjour aussi à l'invité.
Alors, merci de nous rejoindre dans ce numéro du magazine Okapi Service. On parle des opportunités d'investissement en RDC. Votre question, préoccupation par rapport à ces sujets?
Oui, merci beaucoup. J'ai des petites questions.
Oui.
Tantôt, là, l'invité a évoqué aussi les secteurs agricoles. Alors, c'est là que ça suscite un peu mes deux petites questions.
Allez-y.
Donc, voici la première. Comment réussir à investir dans les secteurs agricoles en RDC au moment où les compatriotes ne préfèrent pas de consommer local? Et la deuxième question pour terminer, dans le même ordre d'idées, j'ai comme constat que les jeunes gens ridiculisent les secteurs agricoles. Et sur le terrain, les secteurs se trouvent abandonnés aux personnes avancées en âge. Et ils abandonnent cela aux gens, surtout les gens de la campagne. Alors, dans ces cas d'espèce, que faire pour donner le goût aux jeunes gens, surtout en milieu urbain? Prenez l'exemple d'un jeune garçon qui venait de terminer ses études en droit, en informatique, et lui dire à investir dans le secteur agricole. Est-ce que réellement le message-là sera bien digéré par ces derniers? Voilà un peu mes petites questions.
Merci Charles Kissimba d'avoir appelé de Lubumbashi. Maître Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Omar.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci Marcel, je crois, grande question, mais avant tout je voudrais compléter l'invité parce qu'on parle des investissements. Je voudrais ajouter un peu de sauce juridique. Il y a un code des investissements en RDC. Au-delà des aspects, la loi prévoit des conditions pour investir.
Maître Omar Kigalo, vous voulez bien fermer, il y a une radio à côté de vous parce que là il y a un effet retour désagréable à l'antenne.
Maintenant ça va?
Allez-y, je pense. Non. Ça... Maître Omar, on revient à vous ou carrément vous fermez la radio. Vous avez une radio à côté de vous?
Non.
Et vous avez.
Il pleut, je suis. Dans un bâtiment un peu fermé, voilà, peut-être. Je sors dehors, je sais pas comment.
Alors, on revient à vous, Maître Omar Kigalo. Il est temps pour nous d'aller à Mbujimayi pour accorder la parole à Shadrach. Shadrach, vous êtes en Mbujimayi. Bonjour, Shadrach.
Oui, bonjour, Monsieur Marcel. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Shadrach, sur ces sujets, sur les opportunités d'investissement en RDC. Qu'est-ce que vous avez comme préoccupation ou question?
Merci beaucoup, Monsieur Marcel. J'ai une question par après un témoignage à poser à notre invité. La première des questions, partant de sa définition où les investissements, il faut entendre se mettre l'argent quelque part. Comment peut-on mettre l'argent quelque part ou investir dans un domaine où nous avons un taux très élevé des taxes et impôts? Là, c'est la première question. Maintenant, le témoignage que je voulais donner, parce que nous avons une fondation Martin Mouquet-Tibar, nous avons eu à investir dans les secteurs agricoles. C'était du côté Chilundé, c'est-à-dire à 50 mètres de Mbujimayi. Alors, Monsieur Marcel, laissez-moi vous dire que nous avons eu à éprouver des énormes difficultés, parce que c'était à l'époque, c'était en 2010, où d'abord nous avons fait des démarches, il y avait des tracteurs sur la ville. Nous avons fait des démarches pour obtenir des tracteurs, c'était tout un problème. Et les tracteurs là, c'était juste dans des concessions, des autorités, ainsi de suite. Nous qui restons, on investissait dans les secteurs, on n'a pas pu nous donner des tracteurs en face de vrai avec. Alors, on a pris le courage, moi et le PCA, on a eu à prester jusqu'à 15 hectares de maïs, ainsi de suite. Mais nous avons produit les difficultés que nous avons éprouvées, c'était la route. Vous allez comprendre que les routes de desserte agricole, ça nous a posé d'énormes problèmes. Et jusque là, nous nous sommes découragés de vrai dans ce domaine-là parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, ainsi de suite. Alors, quels sont les conseils que l'invité peut nous prodiguer, nous, en tant que fondation? On est arrivé dans ce secteur-là il y a longtemps, mais nous sommes découragés du fait que nous ne sommes pas accompagnés, du fait qu'il n'y a pas de route, ainsi de suite. Cela ne nous permet pas de faire mieux chose. Et qu'est-ce qu'il peut conseiller aux autorités que du reste, je ne sais pas, le régime actuel est quand même de bonne foi. Je ne sais pas si on pourra nous donner des tracteurs cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il peut prodiguer comme conseil aux autorités afin de nous accompagner dans ce que nous entreprenons? Voilà un peu mes deux petites préoccupations. J'ai dit et je vous remercie.
Merci à vous aussi, à Shadrach, d'avoir appelé depuis Mbujimayi. On va encore essayer avec Maître Omar Kigalo. J'espère que cette fois-ci, ça va bien marcher avec sa ligne. Maître Omar Kigalo, vous êtes en ligne? Il n'est plus en ligne, on pourra peut-être le retrouver avant la fin de cette première partie du magazine Okapi Service sur ce sujet, quelles sont les opportunités d'investissement en RDC. Voilà, Gilles Mpemba, vous avez suivi les deux intervenants. Il y a Charles Kissimba qui a parlé de jeunes qui ne sont pas intéressés par les secteurs agricoles. Qu'est faut-il faire pour essayer d'intéresser les jeunes dans ces secteurs? Il y a également cette question de Chadra qui a évoqué le fait qu'il y a aussi le climat, de taxes hein, qui peuvent décourager. Et par rapport à ceux qu'ils ont déjà commencé à faire dans le cadre de leur fondation, et qu'est-ce que vous avez comme conseil à leur donner hein, ou bien au mieux à les accompagner pour parce que là, pour lui l'environnement pour l'instant ne s'y prête pas encore avec l'état des routes.
Bien sûr. Bonjour à chacun des auditeurs et merci de participer, merci d'avoir relevé ces différents points. Dessus, je dirais qu'il y a des points qui reviennent en termes de réponse. Une part de la réponse revient à l'État, ça c'est clair. On est plusieurs acteurs dans ce sujet-là, de création d'emplois, de création de valeur, de richesse locale. Il y a les financeurs qui doivent faire leur part, moi je suis de ce côté-là. Il y a les entrepreneurs et les personnes qui doivent être intéressées. Et il y a l'État qui doit y mettre des conditions. Parmi les conditions que met l'État, c'est en effet une qualité des infrastructures que l'État doit permettre. C'est un travail sur la taxation que l'État doit faire. C'est un travail sur le coût des produits d'importation ou d'exportation ou d'internet ou peu importe que l'État doit faire. Et donc sur ces éléments, sur la partie de l'État. Je pense que il y a eu des nouvelles personnes qui ont été nommées. Oui. Et je suis convaincu que ces personnes sont intelligentes. Je suis convaincu que ces personnes entendent ces questions. Et si elles ne les entendent pas, il faudra trouver un moyen de leur remonter et de travailler ensemble, pour y répondre.
Donc, sur la parce que on n'arrête pas de parler d'assainir le climat des affaires pour attirer les investisseurs.
Oui, oui, oui. C'est
vraiment une nécessité.
C'est
oui.
Une nécessité pour deux raisons. C'est une nécessité parce que sans ça, on tue la volonté ici des entrepreneurs de tester. Oui. En effet, un des auditeurs parlait du fait qu'il y a trop de taxes et ça c'est vrai. Il y a beaucoup de taxes. Il y a aussi des problèmes avec des faux taxeurs. Donc ça décourage. Et ça, il faut être capable de le changer. L'État a besoin d'argent pour avancer, pour créer des infrastructures, pour faire des choses. Mais il y a peut-être une réflexion sur comment et à quel moment est-ce qu'on peut retirer cet argent-là. Ça c'est clair. Maintenant sur
les jeunes qui sont pas intéressés sur les jeunes
qui sont pas intéressés.
Comment les attirer?
Ça c'est dommage pour eux. Et c'est dommage pour beaucoup de personnes, même des personnes qui sont moins jeunes, qui ont de l'argent, de ne pas comprendre qu'avec le secteur agricole, c'est au-delà de faire manger des gens, au-delà d'aider des gens à gagner à se développer, on peut faire énormément d'argent dans le secteur agricole. Dans le secteur agricole, ceux qui ne font pas d'argent, c'est ceux qui sont sur la partie juste récolte. Si on ne fait pas de production, si on ne fait pas d'industrie, on ne peut pas gagner d'argent. Parce qu'on est dépendant des autres. Maintenant, une structure qui va récolter de l'ananas, qui va produire, récolter son ananas et derrière va le vendre au supermarché, eh bien là, ils vont faire de l'argent. Lorsqu'on voit certaines célébrités ou politiques ou riches hommes congolais qui ont des terres agricoles, ils ne le font pas. Ils le font parce qu'ils gagnent de l'argent. Ils le mettent en avant, je ne vais pas dire de nom, mais ils le mettent en argent parce qu'il y a quelque chose à faire. Et donc sur cette jeunesse-là, il faut leur dire que notre pays, le Congo, regorge de terres et que derrière, il faut être capable d'aller prendre une terre, la développer, industrialiser, pas juste récolter quelque chose et le donner à produire dans un autre pays ou ailleurs, le récolter, le produire, l'industrialiser localement et derrière le vendre. Et vous verrez qu'en termes de création de richesse et de valeur, on aura des résultats qui seront bien différents.
Alors ça, c'est intéressant lorsque vous entend relever tous ces points. Mais pourquoi souvent, et surtout les jeunes, se disent j'aimerais bien investir dans tel ou tel domaine, mais ils n'ont pas, je sais pas. Et ça, pour aller voir de spécialistes qui peuvent les coacher, comme on dit. Est-ce que vous, il y a des jeunes qui viennent vous voir pour vous dire, écoutez, vous êtes spécialiste en investissement et accompagnement des startups. Moi, j'ai un tel projet. Et comment pensez-vous à m'accompagner et puis s'il y a des conditions par rapport à cela?
L'une des choses que l'on ne peut le moins donner une valeur, mais qui a une valeur forte, c'est la connaissance.
Oui.
Pour pouvoir aller voir des gens, il faut avoir connaissance de ça. Et donc, c'est à nous de répandre la connaissance. C'est l'une des raisons de notre échange de ce matin.
Tout à fait.
De dire aux gens qu'il y a des gens qui sont capables de vous accompagner. Vous avez un projet dans la tête, mais ce projet, il n'est pas encore fait. Eh bien, il y a des gens qui peuvent vous aider à le structurer, ce projet. Vous avez déjà un projet lancé, mais vous ne savez pas comment le vendre. Il y a des gens qui peuvent vous aider à le vendre. Vous avez un projet, vous vendez déjà, ça avance. Vous avez besoin de fonds pour aller encore plus loin, mais vous ne savez pas comment obtenir des fonds. Il y a des gens. Donc, il faut avoir cette connaissance, cette capacité à trouver, qui est compliquée, mais à trouver les acteurs qui peuvent nous accompagner sur toutes ces différentes étapes. Et voilà. Et donc, nous, en effet, si on est sur la partie, par exemple, technologique,
oui,
à Kinshasa, il y a des différents types d'acteurs qui accompagnent les jeunes et les moins jeunes, mais principalement les jeunes, sur l'ensemble des étapes, c'est-à-dire à apprendre les bases d'un ordinateur, de définition des différents métiers, à travailler sur ces métiers-là, être capable d'être opérationnel, apprendre par exemple à écriture des lignes, faire du codage informatique, des choses comme ça, d'autres pour devenir un chef d'entreprise parce qu'il faut de la gestion, il faut une compréhension marketing, des choses comme ça. Et donc, il y a des acteurs ici à Kinshasa, je pense à Kinshasa Digital Academy, je pense à Kobo Hub, je pense à d'autres acteurs qui sont à même à accompagner, et pas que à Kinshasa, il y en a sur différentes zones dans le pays, à Goma, à Lubumbashi, qui essayent d'accompagner les jeunes. Et ces acteurs-là, eux-mêmes, doivent être accompagnés parce qu'eux-mêmes font face à des besoins financiers, à des besoins de compétences. Mais je crois que dessus, un accompagnement est financier de notre part et un accompagnement de l'État pour, par exemple, l'éducation de meilleure qualité ou plus centrée sur des besoins réels, permettra dans quelques prochaines années à avoir une qualité qui sera tout autre.
Ah, avant de revenir à aux auditeurs qui sont déjà en ligne, mais dites-nous, est-ce que, parce que vous avez parlé d'un point très important, il faut avoir déjà de la connaissance dans les domaines, si on veut investir dans un domaine. Et si aujourd'hui, je me dis, vous avez dit, il faut pas toujours chercher à avoir beaucoup d'argent. Avec 1 000 $, on peut déjà commencer quelque chose pour séquer des entreprises innovantes, que vous appelez start-up. Si aujourd'hui, quelqu'un se présente en disant, écoute, monsieur Julio, moi je vous ai suivi sur Radio Capi, j'ai 1 000 $, j'aimerais investir, mais je ne sais pas dans ce que je peux investir. Est-ce que vous savez aussi guider ces genres de personnes?
Clairement, et c'est l'objectif. C'est que si on arrive à motiver ces personnes-là, oui, quand je dis « on », c'est l'effort commun. C'est-à-dire qu'on parlait des taxes de l'État, il faut que l'État trouve un moyen incitatif pour ces personnes-là, pour que par exemple on dépense 1 000 $, mais que ces 1 000 $ puissent nous ramener une réduction de tel ou tel sujet, de tel ou tel montant. Mais ces personnes-là existent en RDC. Il y a des personnes qui ont cette capacité à mettre 1 000 $, 5 000 $, 10 000 $ dans un projet, l'accompagner, le soutenir, en se disant, je soutiens mon frère, je soutiens mon enfant, mais derrière, s'il réussit, je gagne de l'argent. Et nous derrière, si on arrive à capter ces gens-là, la difficulté n'est pas de trouver les bons projets. Parce qu'il y a des jeunes qui sont talentueux. Il y a des jeunes qui connaissent, qui ont des projets qui sont nécessaires dans l'éducation, dans la santé, pour aider nos hôpitaux à mieux gérer des choses, à mieux gérer la paperasse, à gagner du temps, pour aider nos administrations. À un moment donné, il faudra que nos administrations, on soit capable de faire les éléments en ligne ou via son téléphone, sans se déplacer, sans attendre, sans ci, sans ça. Eh bien, pour aider tout ça, il faut qu'on puisse mettre de l'argent à ces jeunes qui ont les capacités de créer ces éléments-là. Et donc, moi, je leur dis, si vous êtes, vous avez de quoi faire. En effet, les projets ne manquent pas et je saurai lesquels vous conseiller.
Voilà, c'est bien dit. On revient au standard. Il y a cette fois-ci, il y a Omar Kigalo qui revient. J'espère que ça va bien marcher. Maître Omar Kigalo, vous nous appelez de Kinshasa. Rebonjour.
Oui, bonjour, monsieur Marcel. Merci de me reconnaître. Je ne sais pas si ça va maintenant.
Bon, ça va mieux. Allez-y, on vous écoute.
Merci, monsieur Marcel. J'ai 2 petites questions à l'invité. Mais je voudrais ajouter, puisqu'on parle des investissements, et apporter ma petite source juridique pour dire qu'il y a tout un code.
Oui.
Avoir l'argent, c'est bien. Avoir le talent, c'est bien. Mais il y a un code d'investissement qui existe en RDC qui oblige à celui qui vient entreprendre d'être en règle avec l'État. On ne peut pas entreprendre, initier une affaire sans avoir l'autorisation de l'État. C'est choisir la forme dans laquelle on veut évoluer. On a un établissement, une forme juridique. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais il y a un autre problème, M. Marcel, qu'on doit vraiment tenir compte. C'est le problème de la culture. on forme le Congolais ici dans la culture de la demande d'emploi. Donc c'est un paramétrage culturel sérieux qu'on doit revoir. Peu de jeunes veulent investir, peu de jeunes ont cette mentalité. Si on peut réformer notre système éducatif, introduire des cours comme l'entrepreneuriat depuis l'école primaire, le jeune Congolais s'y répète. Parce qu'au Congo, pour réussir, on a comme l'impression qu'il faut faire la politique, il faut être frère ou sœur de quelqu'un qui est haut placé. Les gens n'ont pas cette culture d'investir, et avant de les initier, il faut d'abord commencer par là. Autre chose, je voudrais aussi que l'invité ajoute l'étude du marché. Avant de commencer une affaire, il ne suffit pas d'avoir l'argent. Voilà pourquoi je disais, il y a une différence entre avoir des millions et être millionnaire. Dans l'étude du marché du marketing, on parle de 4 P. P comme produit. Quel produit je vais présenter d'innovant ou de spécifique? De deux. Devant quel public l'aider un peu? Parce que chaque public a son produit. Imaginez quelqu'un qui veut faire des iPads et aller les vendre à Pacajuma. L'idée est bonne, l'argent est dépassé, mais le public n'est pas adapté à ces produits. Le troisième P, c'est les prix. Il faut que les prix que vous mettiez en place puissent s'adapter aux réalités économiques de votre public. Et quatrième P, c'est la place. Vous le vendez où? Donc ces quatre P-là doivent être étudiés pour celui qui veut entreprendre. Au-delà de l'aspect juridique et des conseils que donne l'invité, cela doit être pris en compte. Et enfin, je pose ma question à l'invité. C'était juste une contribution. Il y a beaucoup de fonds aujourd'hui, monsieur l'invité. Il y a les fonds pour la promotion de l'industrie, il y a les fonds pour l'entrepreneuriat, il y a les fonds de promotion culturelle, il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait qu'en ces jours, les jeunes ont des projets et on n'arrive pas à les financer au niveau étatique? Deuxième question. Il y a un problème sérieux avec les banques congolaises. Elles ne financent pas tout le temps. Pouvez-vous dire aux jeunes qui veulent entreprendre, qu'elles doivent faire, quels sont les critères pour qu'un projet soit financé par une banque? Parce que nous sommes tous jeunes, on est passé par là, on avait des projets qui répondaient aux critères SMT, c'est-à-dire un projet spécifique, un projet mesurable, un projet temporel, mais la banque refuse. Qu'est-ce qu'il faut ajouter dans un projet pour que la banque puisse facilement financer? Et j'ai une dernière question. On a connu dans ces pays une génération des entrepreneurs qui n'ont pas fait des grosses études, qui n'ont pas fait des marketing, mais qui ont vraiment émergé, les Bemba, les Syndica, les Kisombe. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, on a plus cette génération? Donc est-ce un goût à manquer? Est-ce que l'État n'accompagne plus? Parce qu'à l'époque, nous étions enfants, ces gens-là n'ont pas fait de grosses études, n'ont pas fait l'université, mais ils ont été des entrepreneurs, des grands entrepreneurs, ils ont réussi. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus cette génération? Aujourd'hui, si on a quelqu'un qui est riche, soit il est héritier, soit il est dans la drogue, soit il est dans le blanchiment des capitaux, on n'a plus de capitaux frais et naturels. Alors qu'est-ce qui fait qu'on ait perdu cet élan, qu'on ait perdu cette génération des gens sérieux? Voilà ma petite contribution et mes trois petites questions à l'invité.
Merci. Merci, maître Omar Kigalo. Vous appelez depuis Kinshasa à Fungurume, dans l'île là-bas. Justin est en ligne. Bonjour, Justin.
Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, ainsi que des milliers avec notre invité qui est au plateau aujourd'hui.
On vous écoute, Justin.
Ah, d'accord. Je crois que ce sujet d'aujourd'hui tombe à pic avec. Il doit donner réponse au plein grincement des dents aux milliers de Congolais qui nous suivent. Parce que si une autorité se déplace, le souci des Congolais est de présenter seulement que nous cherchons les sociales. Et même à celui qui cherche à se faire populaire, il doit toujours prendre les sociales. En tout cas, il sera beaucoup aimé par la population. Or, les sociales marchent ensemble avec l'entrepreneuriat. S'il y a l'entrepreneuriat, donc il y aura aussi le travail. Et le travail, les individus gagnent des salaires pour subvenir à leurs besoins de la maison. Je trouve qu'aujourd'hui, que les entreprises, les entrepreneurs, les investisseurs ont un compte à rendre avec l'État, mais pas avec ses employés. Puisqu'ils paient beaucoup de taxes. Pour créer d'abord l'entreprise de sous-traitance, il vous faut peut-être 10 documents. Statut égalisé et conforme à l'OADA, impôts, attestation, les avis de la société, permis d'ouverture, ça prend déjà beaucoup d'argent. Et vous arrivez là où on doit vous donner un contrat, on vous demande 5 ans d'expérience dans ce travail-là. Et vous verrez qu'on va relever ces petites et de moyennes entreprises, puisqu'ils n'ont pas d'expérience. Ils viennent de se lancer en achetant les documents conformément à la loi. Mais arrivés sur le terrain, je me dis sans crainte d'être contredit avec nos miniers qui nous écoutent. Pour présenter vous retourner votre cahier de charges, il faut présenter au moins un CV de 5 ans d'expérience. Moi, je viens d'acheter les documents et je vais trouver ça où. Donc, On ne peut pas dire qu'au Congo, il n'y a pas des investisseurs. Chaque maison, il y a l'investissement. Il doit faire les champs et après les champs, il doit chercher à vendre. C'est déjà le business. Et comment sont les états des routes de nos milliers? Donc, celui qui a plus de moyens, il se déplace, il trouve un agriculteur, il achète ses produits au prix là, à un prix là très au rabais. Donc, celui, le cultivateur, il ne se retrouve pas. Et il a sacrifié son temps à sarcler, à doser, à faire ceci. Mais on lui prend les produits là, localement. Donc, il ne se retrouve pas avec les bénéfices. Parfois, il reste même avec des crédits des employés qu'il utilisait pour le sarclage et autres choses. Alors, c'est l'État de donner les goûts pour répondre au social, qu'il encadre les investisseurs. Je crois qu'il n'y a pas de traces des encadrements des investisseurs. S'il y en avait, je pouvais connaître, moi, Justin, ici à Fungurume. Mais... Donc, nous travaillons dans les libérales. C'est la loi du plus fort. Celui qui a beaucoup de moyens, ou celui qui a des partenaires, ils peuvent prendre des crédits et ils commencent à démarrer. Mais nous qui n'avons même pas là où on doit lorgner les yeux pour faire quelque chose, on se retrouve dans des mares. On est en train de lorgner, mais nous avons des potentialités. J'avais suivi un jour que l'entrepreneuriat, soit l'investir, ça débite par les raisonnements. Tu as d'abord une idée et tu te donnes des directions où tu vas aller. Le moyen, ça viendra après. Même, je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un, un investisseur, qui manque 1000 dollars. Les 1000 dollars, on peut en avoir, mais où allons-nous avec les choses que je veux faire? Avec l'État, je vois sur les longs de la route à Solondo, les petits vendeurs qui se font pour vendre les unités, il y a les histoires là qu'on est en train de vendre, mais c'est à chaque matin que les gens, les percepteurs passent pour récolter quelque chose à ces gens. Donc j'ai vu même un petit fermer sa cabine, puisqu'il a été, à tout moment, on lui demandait 50 000. Dans les unités, c'est presque 1000 francs qu'il gagne par carte. Alors, avec les taxes, il a été amorti.
Et merci.
Et il a fermé carrément, il est parti.
Merci,
en
Justin.
Tout cas, c'est cela.
Oui, merci.
Notre invité, oui. Père, nous donne. Ok, merci.
Merci, Justin, d'avoir appelé de Fungurume. Malunga, vous êtes à Bandundouville. Bonjour, Malunga.
Oui, bonjour Marcel, bonjour à notre invité, bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce moment-ci.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet, sur les opportunités d'investissement en RDC? Oui.
Ok. En tout cas, Marcel, félicitations d'abord avec ce sujet vraiment qui cadre avec la vie sociale de la population. Pour investir dans le secteur agricole, ce qui manque là, Marcel, il n'y a pas une éducation de la culture fiscale. C'est ce qui bloque tout ça. Il faut que les animateurs fiscaux se multiplient dans ce secteur. Aujourd'hui, j'ai entendu l'un de mon confrère vient de dire que non, comment on va investir, il y a beaucoup de taxes, il y a tout cela. Vous voyez, il n'y a pas une notion de la fiscalité. Quelqu'un qui est dans ce secteur, s'il voit un agent de l'État, pour ouvrir une activité, il faut être à règle avec l'État. Donc celui qui est ignorant à ça, comment est-ce qu'il va investir? D'où il faut multiplier cette sensibilisation. Si la population et les agents investisseurs qui veulent investir dans leurs affaires connaissent et encaissent cette notion de la culture fiscale, Marcel, vous verrez que chacun dans son secteur sera bien encadré. Mais ce qui manque, c'est ça. Quelqu'un qui voit un agent de l'État chez lui, il va se battre avec lui. Or, il mène une activité. Or, cette activité émane de l'autorisation de l'État. Alors, lui, il veut à ce qu'il doit faire tout sans être en cohérence avec l'État. Est-ce que ça peut se faire? Alors, lui, il sera déjà en conflit avec l'État. Et c'est ça, le manque d'investissement.
Voilà Malunga, vous insistez sur la culture fiscale, c'est bien. Alors, vous avez une question à poser à notre invité?
Oui, la question est celle-ci. C'est ce que j'ai déjà dit. Si nous voulons, je m'adresse à l'invité, si nous voulons avec qui il y ait des investissements dans le secteur que nous disons agricole, il nous faut encore multiplier des sensibilisations fiscales.
si ça se fait, vous verrez que chacun va s'investir et il y aura de la progression dans le secteur et nous allons vaincre ce que nous voulons vaincre.
D'accord, d'accord, on a compris. Merci Malonga d'avoir appelé du monde. Nous voulons de revenir à notre invité. On va lire cette réaction sur la page Facebook au Capi Service de Mathieu Cassie qui nous écrit depuis Béni. Dans un état comme le nôtre où le chômage est tellement généralisé, nous pensons qu'il est nécessaire et important d'assainir le climat des affaires en RDC juste pour attirer bien entendu les investisseurs tant nationaux qu'internationaux, mais aussi apporter aux jeunes les emplois qu'ils ont toujours rêvé. Alors ma question est celle-ci, quels sont les privilèges que l'État a encore d'aux investisseurs locaux qui préfèrent investir dans des secteurs notamment comme les secteur agricole. Ça, c'est Mathieu Cassie qui nous a écrit sur la page Facebook au Capi Service. Il y a beaucoup d'autres réactions. On ne pourra pas les lire toutes. Alors, Julio Mupemba, vous avez suivi la deuxième vague d'intervenants. Comment réagissez-vous?
Merci à chaque personne qui interagit. En effet, une personne l'a souligné. C'est un point, c'est une question nécessaire qui intéresse tout le monde parce que tout à l'heure je parlais de la connaissance, de savoir.
C'est ça un peu le truc du marché aussi. Donc on parle que c'est pas ça, c'est différent.
Non, c'est différent. Je reviendrai sur le sujet du maître oui. Kigalo. Mais voilà, donc c'est un sujet qui intéresse et donc merci à chacun. Sur mes réponses, je vais commencer par les points de Monsieur Kigalo. En effet, il y a un sujet de en anglais c'est mindset. Je le dirai en français en philosophie voilà, il y a, est-ce qu'on est, on a une philosophie entrepreneuriale, est-ce qu'on a une philosophie qui est basée sur avoir un travail de fonctionnaire et ou sinon attendre de l'argent des gens de la diaspora qui sont dans d'autres géographies. Ça c'est des choses qu'en effet doivent évoluer, mais ça c'est pas une problématique unique à la RDC. C'est une problématique qui est commune sur beaucoup de pays en développement, dont principalement les pays en Afrique. Et ce sujet-là de psychologie doit vraiment évoluer, d'aller vers quelque chose où je me forme sur un travail réel qui me plaît, qui me porte, qui me donne des opportunités dans l'avenir, et je n'attends pas forcément de quelque chose de l'État pour avancer. Ensuite, sur la partie où on parle du paramétrage culturel et du système éducatif, c'est une vérité. On l'a dit, on le redira là et après. Il y a un système éducatif qui doit être pensé peut-être différemment, je ne sais pas, mais sur lequel on doit se poser. Mais ça, je dirais que ce n'est pas, c'est un sujet de l'État. Ce n'est pas un sujet d'un investisseur ou d'un financeur.
Parce que vous l'avez dit, l'État également, ça part à jouer. Parce que lorsqu'on parle de l'État de route et tout ça, c'est vraiment la part de l'État.
Totalement. Oui. C'est vraiment une part forte de l'État. Oui. L'État de route, la capacité à mettre les meilleures conditions pour l'enseignement, la capacité à mettre de l'enseignement qui répond à un besoin présent. Il y a un journaliste qui avait fait un article très intéressant sur les études sociales. Le trop plein d'études sociales comparativement à des études entrepreneuriales et économiques, financières et autres. C'est une vérité, mais ça c'est pas une question auquel moi, investisseur, je peux répondre. C'est au ministère de se poser des questions dessus, de quel type de qu'est-ce qu'on doit mettre en avant. Et au-delà de ce qui a été dit sur le code d'investissement, lorsque je parle d'être en adéquation quand on est un entrepreneur avec des besoins d'un financier, c'est clair qu'avoir un business formel, c'est une base. Un business formel, ça veut dire une société qui est enregistrée, une société qui déclare ses revenus, ses ventes, et une société qui paye de l'impôt légalement. Ça, c'est une base. Sans cela, vous n'aurez pas accès à une banque. Sans cela, vous n'aurez pas accès à un investisseur international ou même un investisseur local. Ça, ce n'est pas possible. Alors, il est vrai que si on est formel, on paye peut-être plus de taxes que si on n'est pas formel. Alors, chacun a le droit de choisir le chemin qu'il veut prendre. Mais si on prend un chemin dans lequel, à un moment donné, on va avoir besoin de l'argent des autres, de l'argent d'une banque ou autre, il faut être une entreprise formel, enregistré, qui déclare ses revenus, qui suit sa comptabilité, qui paye ses impôts normalement avec une traçabilité de ces éléments-là. Parce que derrière, lorsque je parlais d'un agriculteur qui ira voir une banque, sans ça, la banque ne le prêtera pas. Avec ça, la banque étudiera et donc potentiellement lui prêtera. Ça, c'est des points clés. Quand on me parle de, il y a des fonds qui existent, mais on n'arrive pas à les dépenser, j'ai deux réponses à donner. C'est pas totalement vrai. Il y a une absence de fonds. Ici, en RDC, il y a une absence de fonds dans plusieurs géographies. Mais
pourtant, ces structures-là existent. Des structures de fonds de promotion industrielle, de fonds de promotion culturelle. Les structures existent et vous pensez qu'il n'y a pas de fonds pour financer des projets?
Ces structures existent.
Oui.
Ces structures financent certains projets. Il y a potentiellement une différence entre le montant promis et le montant réellement décaissé. Ça c'est sans doute vrai. Mais si ces structures, c'est pour ça que je dis c'est partiellement vrai et partiellement faux. Si ces structures n'arrivent pas à décaisser leur argent, c'est qu'elles n'ont pas mis les bons moyens, qu'elles n'ont peut-être pas elles-mêmes les bonnes compétences pour aller trouver là où elles pourraient être pertinentes, là où elles pourraient trouver des sujets à financer. Et ça, c'est un travail qu'il faudrait revoir. Mais si on se place, moi qui suis dans la partie internationale des investisseurs, la problématique, c'est que on arrive avec une somme, mais on reçoit tellement de dossiers.
Oui.
Comparativement à la somme que l'on a.
Exactement. Donc, c'est ça, les grands problèmes aussi.
C'est ça, c'est que je suis sur une problématique qui est totalement différente de ça. Et ça, c'est la problématique de 99,9% des investisseurs. On va recevoir 1000 dossiers pour en faire 10. On va recevoir, on va faire entre un investisseur fait entre 1 et 4% des investissements comparativement au dossier qu'il a reçu. Mais si on fait ça, c'est pas uniquement parce qu'on est sélectif, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de, on peut pas financer tout le monde. Et donc, il y a un besoin de trouver d'autres relais. Au Sénégal, par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a une structure d'État qui s'appelle la Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide, la DER. Et ce qu'elle fait, cette structure d'État, l'État sénégalais l'a dotée d'un montant. Et ce montant-là, la DER finance avec des tickets qui peuvent être l'équivalent de 1 000 $, jusqu'à des tickets qui vont à 50 ou 100 000 $, finance des entreprises. Et donc, il y a des entreprises qui n'ont pas de business, qui sont juste formelles, mais qui n'ont pas encore eu de clients, elle les finance. Il y a des entreprises qui vont être dans le domaine agricole, elle les finance. Des domaines technologiques, elle les finance. Elle leur donne ce premier sou-là qui leur permet de se lancer. Il y a des gens qui diront que en effet les sous ne suffisent pas, et je partage totalement, mais sans sous on ne peut pas non plus, et donc il faut trouver un moyen de faire appel à cela. Et ici au Congo, c'est un point qui peut être mis en place avec un fonds d'État qui a vraiment une volonté de décaisser ces sommes là c'est de rendre des comptes à la fin, de dire on avait 1 million de dollars à décaisser sur un an. Est-ce qu'on a décaissé ou pas? Pourquoi on n'a pas décaissé? Où sont partis l'argent? Sortez-moi le listing. Ça, c'est un point qui serait très pertinent à mettre en place.
Alors puisque on arrive d'ici là à la fin de cette première partie du magazine Okapi Service sur les opportunités d'investissement, vous avez suivi Maître Marc Igalo qui a dit que le jeune ne s'intéresse pas vraiment dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, et vous êtes en face de moi, c'est la radio, on sait pas vous voir, vous êtes très très jeune et vous vous êtes lancé dans vous êtes spécialiste en investissement et accompagnement des startups. Vous estimez qu'il y a moyen d'investir avec peu de moyens, mais c'est seulement il faut c'est faire accompagner.
Est-ce que les jeunes ne sont pas assez dans l'entrepreneuriat? Je ne sais pas, c'est pas ce que je vois. Je ne vois pas tout. Je n'ai pas cette prétention de dire que ce que je vois est la vérité.
Oui.
Mais moi je vois des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'ont pas forcément. Vous savez, il faut leur donner des motifs d'espoir. Lorsque en RDC on démontra qu'il y a eu une nouvelle génération d'entrepreneurs, on parlait de l'ancienne génération, mais s'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs avec des succès. Mais
en fait, il a évoqué aussi ce paradoxe. Hein. Il y a tous ces anciens entrepreneurs qui ont en tout cas fait de preuves dans différents domaines, mais qui n'avaient pas aussi qui
ont démarré à zéro.
Et puis par rapport aujourd'hui, il y a bien des gens qui sont découragés à avoir même décommencé, alors qu'à l'époque n'avait même pas de coaching, n'avait pas des gens qui pouvaient vous coacher.
Je trouve ça. Moi, je dis si tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Oui. Premièrement, si on est entrepreneur, on ne peut pas se décourager aussi simplement que ça. Si on se décourage aussi simplement ça, c'est que notre place, elle est à travailler dans une entreprise, à être employé, mais pas être entrepreneur. Un entrepreneur doit être capable de se battre pour son idée. Et s'il est capable de se battre pour son idée, il a des gens qui peuvent l'aider. Et s'il a les compétences et que son idée elle est bien, il aura des gens qui pourront étudier son dossier pour peut-être le financer selon les éléments. Et donc moi je suis de ceux qui encouragent, qui sont optimistes parce qu'ils voient. Ils voient les sujets, ils voient les éléments. Et donc ce que je dis c'est il n'y a pas assez de financement, mais il faut en parler pour que l'État fasse quelque chose, encourage les gens à financer. L'État fasse sa part sur la partie taxe, qui est beaucoup revenu des deux autres auditeurs qui ont posé les questions, et l'État fasse sa partie sur la partie éducation. Derrière, il y a des acteurs, il y a des financeurs qui viendront, qui accompagneront, et ça permettra de faire avancer un peu mieux les choses.
Alors, rapidement, message aux jeunes qui sont en train de vous suivre maintenant, qui peut-être sont intéressés par tout ce que vous avez dit et qui aimeraient se lancer dans l'aventure.
Un message à tous ces jeunes-là qui aimeraient se lancer dans l'aventure. Il y a un point clé, quelques points clés, c'est que si vous créez quelque chose, il faut que vous, ce que vous créez réponde à une demande. Quelqu'un a dit qu'on ne va pas créer... il faut que ça puisse être vendu. Voilà. Il faut pouvoir vendre. Si on crée quelque chose et qu'il ne sera pas vendu, ça ne sert à rien. On perd son temps. On ne gagnera pas d'argent. Maintenant, il faut avoir parfois sur certains éléments de la patience. Ça met un peu de temps. Mais voilà, mettez de l'excellence, mettez de la volonté. Pensez aux clients, pensez à vendre. Et n'oubliez pas surtout de vous renseigner comment est-ce que vous pouvez vous faire accompagner pour devenir un meilleur entrepreneur, pour avoir des meilleures connaissances en marketing, en gestion. Et derrière, savoir quel type de financement vous pouvez avoir, à quel vous pouvez avoir droit. Voilà.
Julio Mupemba, spécialiste en investissement et accompagnement des startups. Merci d'avoir été des nôtres dans ce studio pour aborder cette question sur les opportunités d'investissement en RTC. C'est un réel plaisir. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup, Marcel. Merci à tous.